Voici donc, apparemment, la réponse à cette énigme de Samson, de celui qui mange est sorti ce qui se mange et du fort est sorti le doux. La réponse, apparemment, c'est que c'est une allusion à la propre histoire de Samson lorsqu'il trouve une colonie d'abeilles avec du miel dans le corps d'un lion qu'il a tué quelques jours plus tôt. Mais je vous avoue tout net que cette réponse ne me satisfait pas pleinement. Parce que d'abord, j'ai toujours été frappé par, j'allais dire, l'injustice de cette énigme. En effet, il semble bien que les Philistins n'avaient aucune chance de deviner cette énigme, puisque cela faisait allusion à un événement propre de la vie de Samson, qui n'avait eu aucun témoin et qui n'avait raconté à personne. Cette histoire d'abeille dans un lion, enfin, comment aurait-il pu deviner? C'était absolument impossible. Et là, c'est pour moi une autre énigme, je dirais. Comment se fait-il que les Philistins n'aient pas râlé, en quelque sorte, en disant « Mais c'est idiot, ton énigme, elle était sans solution, donc poser une énigme impossible, ce n'est pas du jeu, pourrais-je dire. » Et donc, je ne comprends pas bien pourquoi Samson a posé ce type d'énigme, si c'est ça le sens. Et je comprends encore moins pourquoi l'enjeu de la solution, c'est 30 chemises. Et donc, il reste dans ce texte d'autres énigmes, parce qu'une énigme peut souvent en cacher une autre. Alors, en réfléchissant un peu, je me suis dit que, en fait, la réponse se trouvait dans l'événement même de la vie de Samson, qui est la trame sous-jacente de cette histoire, qui est le fait qu'il ait voulu prendre une épouse chez les Philistins. Et du coup, on peut voir là un parallèle avec sa propre histoire. En effet, de même que Samson voulait prendre une épouse dans le peuple qui dévorait son peuple, Samson veut peut-être prouver que de celui qui mange, c'est-à-dire dans le peuple des Philistins, on peut trouver de la douceur, qui est ce que l'on peut souhaiter d'une épouse digne de ce nom. Donc peut-être que Samson essaye par là de justifier son attitude, alors qu'il y avait, comme on l'a vu, une certaine contestation. Ça n'allait pas de soi d'aller prendre femme chez le peuple ennemi. Mais là encore, cette solution, je crois que si elle est juste, ne me satisfait pas pleinement. Parce que, d'abord, la question du choix de son épouse n'est plus jamais posée après. Au début, les parents râlent un peu, mais après, ils ne disent plus rien. Et donc, il ne semble pas que ce soit l'enjeu du texte. Et puis, d'autre part, si le texte vraiment voulait nous dire que Samson avait eu raison, le problème, c'est que la suite de l'histoire montre qu'il a eu tort, puisque finalement, cette femme qu'il avait choisie va le trahir et que son mariage va tourner au fiasco, puisque finalement, cette même femme va être donnée à un de ses compagnons, enfin, donc ça va très mal tourner. Et en fin de compte, je dirais que Samson aurait mieux fait d'écouter ses parents. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi la Bible nous aurait donné là une sorte d'histoire, la montant en épingle avec une énigme et une parabole, alors que finalement, cette histoire, si ce n'est que cela, est fausse. Et la morale n'est pas bonne. Alors il faut chercher encore un peu plus loin. Et peut-être faut-il se souvenir que, d'après le verset 4, au début du chapitre, il nous est dit que le fait que Samson aille chercher une épouse chez le peuple ennemi, c'est une volonté explicite de la part de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu. Et cela veut dire que si Dieu a voulu cela, c'est que Dieu avait de bonnes raisons. Et peut-être, effectivement, faut-il voir un peu au-delà de l'histoire propre de Samson et dire que Dieu a voulu là donner une leçon un peu plus générale, je dirais, au peuple et à nous-mêmes. Parce qu'un texte n'a d'intérêt que si il nous concerne, nous, et pas simplement l'histoire de Samson, il prend qui il veut comme femme, ce n'est pas mon problème. Et donc de se dire que là, Dieu a peut-être voulu nous expliquer quelque chose. C'est que même dans le peuple qui a priori est mon ennemi, je dois savoir qu'il est possible d'y trouver du bon, de la douceur et du nourrissant. Et même ça nous arrive à nous aussi, parce qu'en ce moment nous ne sommes pas en guerre, mais il y a bien sûr souvent des gens qui nous embêtent, qui nous agressent. Et donc nous devons prendre garde à la fois de ne pas tomber dans une sorte d'intégrisme xénophobe qui consiste à mettre tout le monde dans un même sac et dire tous ces gens-là, ce sont des imbéciles, ce sont des affreux, ce sont des méchants, en bloc, parce que Dieu dit non, attention, même dans ce qui mange, je peux trouver quelque chose qui peut me nourrir moi. Et même dans un groupe humain qui, a priori, m'est hostile, je peux y trouver de la douceur et du bien. Et de même, même par rapport à ceux qui sont en face de moi et qui peut-être veulent me dévorer, ceux qui me font du mal, ceux qui m'agressent, plutôt que de dire en bloc « un tel qui m'a fait du mal, c'est un méchant, c'est un violent, c'est un égoïste, c'est un jaloux, c'est un malfaisant », je dois prendre garde, parce que même chez celui qui a priori s'est jeté contre moi pour me dévorer, peut-être y a-t-il quelque part caché quelque chose de bon et que je dois aller chercher. Alors oui, c'est vrai que ce n'est pas simple ensuite à mettre en œuvre cela. Et cela m'explique pourquoi, je dirais bien que l'histoire de Samson finalement arrive à une sorte d'échec, en quelque sorte. Néanmoins, je crois que c'est vrai et que c'est essentiel de s'en souvenir. Il y a là quelque chose de fondamental. Et peut-être même peut-on aller plus loin et généraliser cette affaire en pensant qu'il n'est pas question là seulement que de relations interpersonnelles, un tel que nous catégorisons comme méchant ou autre, mais par rapport à tout ce qui peut nous arriver. Parce que nous tous, sans cesse, il est rare que nous soyons attaqués par des lions rugissants, mais sans cesse il y a des événements qui viennent nous agresser dans notre vie. Et il y a des épreuves qui viennent nous, bouleverser notre équilibre et qui viennent menacer de nous manger tout cru, de nous tuer, de nous mettre à bas. Et là, quand nous sommes confrontés à certaines épreuves, confrontés comme Samson à son lion rugissant, je crois que nous devons savoir que même si c'est difficile, il y a peut-être toujours là quelque chose de bon que l'on peut y trouver. Et donc là, cette énigme est bien ça, de dire attention, même dans la plus mauvaise des choses, vous pourrez toujours, avec l'aide de Dieu, en tirer quelque chose d'essentiel et de fondamental, quelque chose de bon qui peut être pour vous source de nourriture. Si vous savez cela, vous gagnerez 30 chemises. Nous verrons tout à l'heure pourquoi. Mais en fait, cela n'est pas simple à faire, effectivement. Comment transformer une épreuve du mal, de l'agressivité? Comment y trouver du bien et du bon et du nourrissant là-dedans? Eh bien, il faut relire un peu toute l'histoire de Samson pour comprendre comment ça s'est passé. Et là-dedans, on se rend compte que Dieu a un très grand rôle, dirais-je. Tout d'abord parce que, avant de trouver le miel, ce que Samson va faire, c'est qu'il va réussir à vaincre à main nue ce lion. Ça, c'est un miracle, parce que sans la force de Dieu, il n'aurait jamais pu le faire. Il y a là une première bonne leçon théologique pour nous, c'est qu'avec l'aide de Dieu, nous pouvons vaincre des obstacles absolument extraordinaires que nous n'aurions pas pu vaincre sinon. Et avec l'aide de Dieu, nous pouvons arriver à dépasser des choses extraordinairement difficiles et nous pouvons en quelque sorte arriver à faire des choses que nous n'aurions pas pu faire sinon. Mais c'est vrai que néanmoins, Samson n'a pas eu cette force comme ça d'un coup. Le texte nous dit qu'il était consacré à Dieu depuis sa naissance et depuis avant même sa naissance. Et je crois effectivement que c'est tout le temps que nous avons passé à nous consacrer à Dieu et à le rechercher qui crée en nous une sorte de force, d'inertie, de fondement, de puissance qui fait en sorte que le jour où nous sommes confrontés à un lion rugissant, spirituel ou psychologique ou autre, eh bien là, nous pouvons trouver la ressource qui nous permet de diviser ce lion en deux. Alors oui, c'est vrai d'ailleurs, comment Samson s'y prend-il? On nous dit qu'il le coupe en deux, le lion. Il le coupe en deux. C'est assez étonnant. Et c'est peut-être ça la manière avec laquelle Dieu nous aide à dépasser nos propres épreuves. C'est qu'avec l'aide de Dieu, eh bien, les épreuves qui arrivent devant nous, au lieu de rester comme un bloc monolithique et menaçant, nous arrivons à le couper en morceaux. Et quand on coupe quelque chose en morceaux, eh bien, on a plus de force pour le détruire, selon ce bon principe qu'il faut diviser pour mieux régner. Peut-être que, justement, la présence de Dieu dans nos vies permet de mettre une faille, une fente, une fissure, de fissurer, de craqueler les épreuves qui nous arrivent, nous donnant la possibilité d'avoir une prise sur elles et de ne pas être en face d'une sorte de mur de granit sur lequel nous ne pourrions rien faire. Alors ensuite, Samson va donc être libéré de ce lion. Donc Dieu, une fois de plus, ne fait pas disparaître l'épreuve du lion, simplement il est rendu inoffensif et il est en miettes. Alors Dieu, Samson libéré, va vaquer à sa propre vie, ce qui est le but. Et finalement, le but, c'est que nous puissions vivre sans être paralysés par nos difficultés. Mais ça n'est pas suffisant, parce qu'il ne suffit pas de dépasser nos épreuves, on peut faire plus que cela et y trouver du bon et du nourrissant. Et pour cela, Samson va faire une chose formidable. Il va revenir sur le lieu de son combat et il va retourner pour voir la carcasse du lion. C'est là une bonne chose, je crois, peut-être, lorsque l'on a réussi à dépasser quelque chose, retourner, voir ce qu'il en est, peut-être pour voir ce que l'on peut en faire, en quelque sorte. Et là se trouve un deuxième miracle. Des abeilles étaient installées dans la carcasse du lion. C'est un grand miracle, parce que normalement, les abeilles ne s'installent jamais dans un cadavre. Jamais, jamais, jamais. Les abeilles fuient les charognes et les cadavres. Donc, c'est normalement impossible. Alors, il a donc fallu, pour que cela soit possible, que le cadavre du lion soit entièrement nettoyé, c'est-à-dire qu'il soit entièrement desséché et transformé à l'état de squelette, en quelque sorte. Et à ce moment-là, les abeilles ont pu s'installer, je ne sais pas où, dans le crâne, à condition qu'il soit totalement vidé et propre. Et là, c'est intéressant, cette affaire. Parce qu'effectivement, je crois que cela nous montre que nous avons une chance de tirer du bon, du mal qui nous est arrivé, mais que pour cela, il faut un certain temps. Cela ne se fait pas tout de suite. Et cela ne sert à rien, je dirais, d'aller retourner sur ces épreuves, de les regarder, de s'en repaître et de remanger, de se remettre là-dedans et d'essayer de manger cela, parce que l'on ne va manger que de la charogne et on va se rendre malade. Et il faut donc un certain temps pour que progressivement, je dirais, cette charogne cesse d'être puante, en quelque sorte, pour devenir sans odeur, pour devenir propre. Et à ce moment-là, des abeilles peuvent s'installer là-dedans. Et à ce moment-là, dans ce qui avait été pour nous une épreuve, peut se trouver quelque chose qui peut nous nourrir. Alors d'autres disent que dans les commentaires bibliques qu'il y a là un autre miracle encore, c'est que Dieu a fait en sorte que cela se passe très vite. Parce que le texte nous dit qu'il ne passe là que quelques jours après. Donc, autre miracle, Dieu a fait en sorte qu'au lieu de prendre un an à se propifier, le cadavre du lion s'est nettoyé en quelques jours. C'est peut-être que, est-ce que l'aide de Dieu nous permet de digérer plus vite nos difficultés? Peut-être, peut-être pas, mais peut-être que oui. En tout cas, là, c'est un renversement extraordinaire, du coup. C'est que, effectivement, ce qui pouvait, lui, le dévorer avant, devient pour lui source de vie. De même que, par exemple, quand Jésus fait marcher Pierre sur l'eau, l'on dit souvent que le miracle extraordinaire, d'un point de vue spirituel, n'est-ce pas, c'est que l'eau qui était l'épreuve qui risquait d'engloutir Pierre devient en fin de compte ce qui le porte, ce qui le soutient et ce qui lui permet de marcher. Transformer le mal en bien, la mort en vie, c'est cela effectivement le pouvoir de résurrection de Dieu et ce qu'il peut opérer en nous. Mais bon, une fois de plus, cela ne s'est pas fait tout seul. Parce que c'est vrai qu'avec le temps, le cadavre aurait pu cesser d'être puant. Et c'est vrai que nos épreuves, avec le temps, on finit par s'y habituer et elles cessent de nous faire du mal. Mais pour trouver la dimension positive de l'affaire, ce n'est pas simplement de ne plus souffrir de quelque chose. C'est retourner complètement l'affaire pour qu'au lieu de nous nuire, elle nous nourrisse. Et pour cela, il a fallu que, nous dit le texte, que des abeilles s'installent dans le cadavre du lion. Et ça, c'est assez étonnant, parce que veulent dire ces abeilles? Eh bien là, il faut faire un peu d'hébreu, je vous demande pardon. L'abeille en hébreu, ça se dit Déborah, c'est le prénom féminin, Déborah, ça veut dire l'abeille, voilà. Et en fait, Déborah, c'est le même mot en hébreu que la parole. Et donc une parole et une abeille, ça se dit de la même manière en hébreu, ce qui est une chose assez curieuse quand même. Et aussi je peux penser que pour qu'un événement puisse être transformé en positif, il faut que cet événement soit truffé, en quelque sorte, de paroles. Alors soit les psychanalystes vous diront parce qu'il faut verbaliser les choses, il faut les dire, et quand on l'a dit, ça va mieux. Ou même en tant que théologien, je dirais que les événements doivent être remplis pas de n'importe quelle parole, mais de la parole même de Dieu. Et souvent dans la Bible, d'ailleurs, les abeilles sont confondues avec la parole de Dieu, ou comparées en tout cas à la parole de Dieu. Et donc effectivement, tout ce qui convient, c'est d'arriver à faire en sorte que nous installions dans nos difficultés et dans nos épreuves, une fois qu'on a laissé le temps que ça aille un petit peu mieux, que nous sachions y installer la parole de Dieu. Et lorsqu'on y installe la parole de Dieu, lorsqu'on truffe les événements, qu'on les remplit de la parole de Dieu, alors ces événements peuvent donner naissance à du miel. Et le miel, dans toute la Bible, c'est l'image de la douceur. Quoi de plus doux que le miel? Alors, toute la difficulté, effectivement, se trouve là. Mais en même temps, une fois qu'on a réussi à faire s'installer la parole dans les événements de notre vie, la partie n'est pas entièrement gagnée pour autant. Parce que j'imagine Samson. Donc il arrive, il trouve cet essaim d'abeille dans le corps du lion. Mettez-vous à sa place. Et après, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez déjà essayé de récolter du miel à main nue sur un essaim sauvage? Eh bien, je vous souhaite bien du courage et bien du plaisir, parce que ça n'est pas évident du tout. Et vous allez vous faire piquer, tout simplement. Et donc, je ne sais pas comment a fait Samson. Je pense qu'il a dû se faire piquer pas mal. Et donc, il a réussi à tirer le bon, la douceur du miel de cet événement difficile. Mais à mon avis, ça n'a pas été sans peine. Parce que, effectivement, l'abeille, si elle est celle qui donne la douceur du miel, elle est aussi parfois dans la Bible l'image de ce qui nous menace comme un essaim qui veut nous piquer. Et du coup, cette parole de Dieu, elle est un peu ambiguë. Elle est à la fois source de douceur et source de piqûre. Et finalement, je crois que c'est vrai. Parce que la parole de Dieu, ça n'est pas une sorte de sirop sucré ou de bonbon bien doux au miel que l'on avale en disant « Amen, c'est très bon, formidable, merci mon Dieu ». La parole de Dieu, c'est une parole dérangeante. C'est une parole qui nous heurte de plein front, je dirais. C'est une parole qui nous bouscule. C'est une parole qui nous aiguillonne. La parole de Dieu, c'est une parole qui est parfois, j'allais dire, dure à avaler. Demandez aux catéchumènes qui suivent des années de catéchisme et comprendront que la parole de Dieu, pour eux, elle n'est pas évidente à comprendre, à saisir, à intégrer. Et pour ceux qui ne sont plus, auxquels on n'impose plus des années de catéchisme, si vraiment vous savez à quel point ça n'est pas si simple de lire la Bible, de la méditer, et que parfois ces textes même nous dérangent parce qu'il y a des choses là-dedans qui nous remettent en cause ou qui sont difficiles à vivre et à croire. Donc oui, c'est vrai, nous devons, pour trouver la douceur qui va nous nourrir là-dedans, nous devons nous bagarrer avec cette parole. Nous devons accepter d'être blessés par cette parole, comme Jacob qui va combattre avec l'ange. Et certainement comme lui, si nous combattons ce combat, nous pouvons sortir bénis par Dieu. Mais en même temps, nous en sortons forcément, je crois, un peu blessés. Et ces blessures, peut-être sont-elles bonnes aussi, parce qu'elles nous apprennent que nous ne sommes pas tout-puissants. Et puis autre petit conseil, petite leçon que nous donne cette affaire. Bon, admettons que vous ayez réussi à franchir l'étape des abeilles. Vous vous trouvez avec des rayons pleins de miel, et alors ensuite, que ferait l'imbécile? Eh bien, il mangerait tout d'un coup. Mais il ne faut pas faire ça. Il faut d'abord séparer le miel des rayons. Il ne faut pas tout manger en bloc comme ça. Et dans la Bible, c'est la même chose. Il ne faut pas prendre la Bible et tout gober d'un coup en se disant « Ah, je prends, c'est ce que m'a donné la parole de Dieu ». Il ne faut pas être idiot quand on lit la Bible. Il faut savoir séparer l'accessoire de l'essentiel. Et il faut arriver dans la Bible à faire le tri entre ce qui ne vaut rien ou ce qui n'est pas nourrissant pour moi à ce moment-là, et trouver dans la Bible ce qui est justement bon et nourrissant. Si vous avalez tout d'un coup, eh bien, vous n'aurez que des choses indigestes. Et donc, il faut chercher Il faut chercher, il faut presser, je dirais, cette Bible, il faut en extraire la substantifique moelle et trouver le trésor de miel doux qui s'y trouve caché au milieu des rayons. Mais par pitié, ne mangez pas tout sans discernement, sinon vous ne pourrez rien digérer. Alors cela, c'est merveilleux, et Samson donc s'en tire plutôt bien, je dirais. Mais ce n'est pas fini, parce que Samson fait encore autre chose de très bien. Il aurait pu se goinfrer de miel. Mais là, la Bible, encore souvent, je n'ai pas pu tout vous lire, mais nous met en garde à propos du miel en disant « Attention, le miel, c'est très bon, mais il ne faut pas en abuser. Si vous en mangez trop, vous serez malade. » C'est la même chose pour la parole de Dieu. Lisez un peu de Bible, priez, venez à l'église, mais ne faites pas que ça, parce que sinon, vous vous rendrez malade. Et nous ne devons pas, j'allais dire, vivre pour manger, nous ne devons pas vivre pour prier, mais nous devons manger pour vivre, prier pour vivre, et lire la Bible pour vivre. Et donc Samson fait là quelque chose de très bien, c'est qu'au lieu de s'asseoir à se goinfrer spirituellement de la prière, de l'amour de Dieu, de la grâce, etc., il marche, il se met en route, et il prend le miel comme viatique, et il le mange en route. C'est-à-dire que sa vie spirituelle n'est pas un but en soi, mais elle est ce qui lui donnera la force et le courage d'avancer. Et ensuite, il va arriver chez ses parents, et là, il va en donner un pot à son père et à sa mère. Formidable. Et effectivement, c'est bien cela. Cette grâce de Dieu, cet amour de Dieu, ce pardon, cette liberté que Dieu nous donne, ce n'est pas pour qu'on s'engoinfre en se disant « c'est merveilleux, j'ai de la chance, Dieu me pardonne ». C'est pour que nous puissions marcher vers les autres, et que nous puissions à notre tour aller en distribuer aux autres et le redonner aux autres. Alors ce qu'il y a à gagner là-dedans, eh bien c'est extraordinaire, c'est merveilleux, c'est la douceur, c'est la nourriture, c'est la vie. Et c'est en plus, nous dit le texte, 30 chemises. Alors venons-en à ces 30 chemises. Pourquoi est-ce que l'enjeu de l'énigme, c'est de gagner ou de perdre 30 chemises ? Eh bien, tout simplement parce que je crois que la chemise, c'est ce qui nous vêt, c'est à la fois la protection, et c'est aussi ce qui cache, comme dit la Bible, la honte de notre nudité. Et c'est bien cela que Dieu nous donne. À la fois, il nous protège, et à la fois, il nous pardonne, il nous libère, et il nous rend libres, joyeux et confiants en nous pour agir pour les autres. Et donc, ce qu'il y a à gagner, lorsque l'on a compris que Dieu peut tirer toujours du bien du mal, lorsque nous comprenons qu'avec l'aide de Dieu, nous pourrons toujours tirer du bien du mal qui nous arrive, que Dieu peut tirer le meilleur bien du mal qui est en nous, alors nous gagnons les 30 chemises, c'est-à-dire 30, c'est le nombre de Dieu, nous gagnons la chemise de Dieu, nous gagnons la protection de Dieu, la nourriture de Dieu, son aide, sa présence, sa grâce et sa force. Et si vous ne comprenez pas cela, alors c'est vous qui allez tout perdre jusqu'à votre dernière chemise. Vous perdrez tout, parce que si vous n'avez pas compris le sens profond de cette énigme, que du mal on peut tirer du bien, eh bien vous perdrez tout. Alors les Philistins vont tricher, c'est très amusant, ils vont trouver l'énigme, mais ils ne vont pas la comprendre en quelque sorte. Et les Philistins sont l'image de ceux qui se disent « Tiens, eh bien moi, je vais me vêtir, non pas avec l'aide de Dieu, mais par mes propres forces. » C'est ça en fait. Donc je vais essayer de me perfectionner en enlevant tous mes défauts. Je vais me marquebouter contre les épreuves pour les surmonter, pour les dominer. Et je vais essayer de cacher par moi-même mes défauts, mes péchés, mes horreurs, etc. Eh bien, ce mensonge, cette attitude, je dirais, de l'homme qui croit que par lui-même il va pouvoir faire son propre salut, ne conduit à rien. Il peut y avoir une apparence, une illusion de chemise. Mais comme dans notre histoire, cela ne conduit finalement qu'à la violence et qu'à la mort. Parce que les Philistins vont bien gagner leurs 30 chemises, mais au prix de 30 Philistins qui vont mourir. Et puis il y a encore une dernière chose, et puis après je vous laisse sur ces abeilles et ce miel. C'est que dans cette énigme, on nous dit que Samson trouve dans le corps du lion un essaim d'abeilles. Or là, pour un hébraïsant, c'est très curieux, parce que le mot qu'ils ont utilisé là pour dire « essaim » est le mot que l'on utilise normalement pour désigner une communauté humaine, une église, une communauté, une paroisse en quelque sorte. Et puis quand on sait que l'abeille Déborah, c'est aussi un nom d'être humain, Je me dis, mais finalement, est-ce que je ne pourrais pas penser que je serais moi-même aussi appelé à être cette abeille? Et que ce corps de lion en putréfaction ne pourrait-il pas représenter également ce monde plein de violence, je dirais, de haine, de mensonges, de jalousie et d'égoïsme? Et comment faire en sorte que ce monde ne conduise pas qu'à la mort, mais qu'il puisse susurrer de la douceur et de la vie? Eh bien, cela n'est possible que si moi-même, et que si nous tous, si nous-mêmes, en tant que communauté, qu'assemblée, assemblée nourrie de la parole de Dieu, nous savons aller nous installer dans ce monde, pour que dans ce monde, qui normalement est un monde de destruction, puisse germer, puisse naître de la douceur, de la grâce, du pardon et du service. Et c'est donc cela, tout ce que Dieu peut opérer en nous. Nous aider non seulement à nous retourner nous-mêmes, mais une fois que nous sommes retournés, que nos événements sont retournés à l'envers, nous pouvons à notre tour devenir ceux qui retournent le monde. Et ça, c'est une énigme extraordinaire. Et c'est là où effectivement il y a énormément à gagner. C'est la gloire, je dirais, de Dieu de pouvoir ainsi agir dans le monde par notre intermédiaire. Et effectivement, rappelons-nous que de ce qui mange peut sortir ce qui est mangé, et que du fort peut sortir le doux, et que tout cela, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Amen.